Vous êtes sur RTL. RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal avec Jérôme Florin, bonjour Jérôme.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Beaucoup le craignaient, les restaurateurs resteront fermés au-delà du 20 janvier.
C'est une information RTL et nous appellerons le chef Philippe Etchebest dès le début de ce journal. Un habitant sur 9 déjà vacciné en Israël, reportage. Et puis quand Donald Trump tente de bidouiller les chiffres de la présidentielle, la conversation a été enregistrée, vous l'entendrez.
RTL Matin.
Il n'y aura donc pas de cadeau pour les restaurateurs en ce début d'année. Ils ne rouvriront pas le 20 janvier, comme Emmanuel Macron l'avait d'abord annoncé. Il avait conditionné cette réouverture à une amélioration des chiffres de l'épidémie. Mes voisins, ils ne sont pas bons. Bonjour Jacques Serret.
Bonjour.
C'est vous qui nous donnez cette information pour RTL. Jean Castex a tranché.
Oui, en petit comité, le Premier ministre a clairement acté ce nouveau report. Les restaurants vont encore rester fermés pendant plusieurs semaines. En tout cas, au-delà de cette date du 20 janvier qui avait été fixée fin novembre par Emmanuel Macron, les conditions ne sont pas réunies, épreuve de la gravité de la situation. Avant même de connaître les conséquences des fêtes de fin d'année sur l'épidémie, cette décision de ne pas rouvrir les restaurants est déjà prise au sommet de l'État. Ça ne sera pas le 20 janvier, confirment à RTL plusieurs sources gouvernementales haut placées qui n'utilisent plus le conditionnel. La question que se pose désormais l'exécutif, c'est quand et comment l'annoncer officiellement. Plusieurs ministres invités dans les médias ces dernières heures ne cachent plus leur pessimisme pour mieux préparer le terrain. Le couperet devrait tomber officiellement au cours d'une conférence de presse dans les prochains jours, a priori le 14 janvier. Pour tenter de consoler les restaurateurs, le gouvernement prévoit déjà de prolonger les dispositifs d'aide pour le secteur aussi longtemps que nécessaire.
Alors, qu'en pensent les intéressés? Merci beaucoup Jacques Serret. Nous sommes avec le chef Philippe Etchebest. Bonjour.
Bonjour.
Merci de nous accorder un peu de temps ce matin sur RTL. D'abord, comment vous prenez cette nouvelle? C'est un coup de massue ou vous y attendiez?
Aucune surprise pour moi. Avec tout ce qui se passe aujourd'hui, avec les fêtes, c'est évident qu'on ne pouvait pas être rouvert le 20 janvier.
Je rappelle que le secteur est à l'arrêt depuis le 30 octobre.
Hein. Oui, sans compter mars, avril et mai. Il hein. ne faut pas oublier le premier confinement. Hein. Il y a eu 2 mois et demi de confinement aussi. Hein. Donc ça va faire 6 mois que nos établissements sont fermés.
Psychologiquement, vous en êtes où ?
Psychologiquement, écoutez, c'est très dur. Les gens autour de moi les remontées que j'ai, en tout cas, elles sont dramatiques. Il faut maintenant que le gouvernement soit à la hauteur de ses prises de décision, à savoir qu'il y ait des aides suffisantes pour que nous puissions tenir et que nous puissions aussi reprendre.
On vous entend un peu désespéré, mais vous êtes un battant, vous, Philippe Etchebest.
Oui, donc, je suis un battant, ça c'est sûr. Et heureusement, et il faut se battre, hein, mais c'est dur, hein, franchement. Mais c'est sûr qu'il faut, j'ai envie de dire, il faut continuer à se battre, il faut rien lâcher, mais il y en a qui ne peuvent plus, il y en a qui n'en ont plus les moyens.
Vous disiez 30%?
Oui, dès le premier confinement, j'avais annoncé 30% de faillite, mais là, j'ai l'impression qu'on va pouvoir augmenter le chiffre. Mais j'aimerais tellement me tromper.
Vous avez un message aujourd'hui pour le président de la République, s'il vous écoute?
C'est un message pour le président de la République. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus que tout ce qu'on a dit, si ce n'est que qui dirige le pays aujourd'hui? Je me pose la question. Mon sens, c'est quand même lui le patron, c'est lui le boss. Il faut qu'il tape du poing sur la table. Tout ce qu'on voit, les prises de décision qui sont prises par les ministres, les vacances, tout ça n'a pas de sens, ça n'est pas logique. J'ai entendu le ministre de la Santé dire, on a eu le courage de dire aux Français qu'ils allaient passer le Noël en famille alors que les autres pays ont confiné. Moi je dis, le ministre de la Santé n'a pas eu le courage de dire aux Français, restez chez vous, préservez vos aînés et les conséquences aujourd'hui on va les payer. Voilà ce qui va se passer. Et je prends la parole parce que je suis concerné par ce qui se passe et qu'il y en a des milliers d'autres comme moi. Et voilà, c'est tout.
Et on a bien entendu votre colère ce matin sur RTL. Merci beaucoup, Philippe Etchebest.
Merci, au revoir.
Précisons tout de suite qu'Olivier Véran, le ministre de la Santé, sera l'invité d'RTL demain à 7h40. Il répondra aux questions d'Alba Ventura.
La barre des 65 000 morts a désormais été franchie en France et la campagne de vaccination présentée comme la solution à tous nos maux démarre beaucoup trop lentement. Quelques centaines de personnes vaccinées dans notre pays. Ailleurs, ça se compte en dizaines de milliers. En Israël, on en est même à 1 million. Une performance dans ce pays de 9 millions d'habitants. À Jérusalem, le reportage de Stéphane Amar.
Dans ce centre de vaccination de Jérusalem, pas besoin de prendre rendez-vous. Sarah et Shlomo, deux retraités originaires de France, ont été reçus quelques minutes après leur arrivée.
On nous a dit que les Israéliens étaient carrément les premiers du monde à le faire, proportionnellement. Donc nous sommes très heureux.
Et puis surtout, je pense qu'on va enfin pouvoir retrouver nos petits-enfants et pouvoir les revoir tranquillement.
Les embrasser, voilà. Se rapprocher d'eux.
Le centre fonctionne 12 heures par jour afin de vacciner le maximum de patients. un impératif selon le directeur.
D'ici moins d'un mois, toute la population à risque sera vaccinée. C'est une nouvelle extraordinaire. Cela va changer complètement la situation dans tout le pays. Et ensuite, nous commencerons à nous occuper des plus jeunes.
Plus de 250 centres comme celui-ci tournent à plein régime dans le pays. Déjà 1 million de personnes ont reçu le vaccin en Israël.
Un reportage signé Stéphane Amar.
RTL, il est 8h05. Le marché automobile français a son plus bas niveau depuis 1975.
C'est l'un des secteurs les plus touchés par la crise économique et sanitaire, en tout cas en ce qui concerne le neuf. Bonjour Christophe Bourroux.
Bonjour.
Car vous nous le révélez ce matin, pour RTL, l'occasion, elle résiste bien.
Oui, puisqu'avec un peu plus de 5,5 millions de voitures échangées, le marché de l'occasion baisse à peine de 4,5%, sans commune mesure avec le neuf qui, lui, s'est effondré de 25%. Il faut dire que plus de la moitié des ventes d'occasion se sont effectuées entre particuliers, selon le site spécialisé Autoscout 24, donc un marché moins affecté par les mesures sanitaires. Et dans ce contexte, les marques françaises restent au top, avec en tête des ventes la Renault Clio, même si la part des voitures allemandes a progressé, avec un record au passage pour Porsche, plus 10%. Les automobilistes ont surtout recherché des modèles soit récents de moins de 5 ans ou plus âgés, voire très âgés, puisque les véhicules de plus de 16 ans ont fait un bond de 4,5%. Enfin, si le diesel reste encore majoritaire avec près de 6 achats sur 10, il a perdu 5 points au profit des motorisations essence, mais aussi des électriques et des hybrides, en hausse de 50%.
Merci pour ces infos. Christophe Bourroux, la France va très probablement réduire ses effectifs au Sahel dans le cadre de sa mission Barkhane. C'est ce qu'annonce la ministre des Armées, Florence Parly, au surlendemain de la mort de 2 soldats français au Mali, Yvonne Huyn, 33 ans, et Loïc Risser, 24 ans, basé à Haguenau, dans le Haut-Rhin. Ils ont été tués samedi dans l'explosion d'une bombe artisanale au Mali.
Aux États-Unis, Joe Biden aura-t-il les coups des franges?
C'est la question qui se pose, puisqu'il faudra que ces deux candidats l'emportent dans l'État de Géorgie pour faire basculer le Sénat dans le camp démocrate. Réponse demain. La Géorgie, qui a voté Biden à une courte majorité, n'en déplaise à Donald Trump, qui aura tout fait pour modifier les résultats, comme le montre cet enregistrement stupéfiant diffusé par le Washington Post. Une conversation téléphonique entre le président et le républicain en charge des élections dans cet État du Sud. Écoutez.
Nous avons gagné ces élections en Géorgie. Et les gens sont en colère dans tout le pays. Il n'y a rien de mal à dire que vous avez recalculé.
Mais, Monsieur le Président, les données que vous avez sont fausses.
Non. Vous devriez vouloir une élection juste. Vous êtes républicain.
Nous pensons avoir une élection juste.
Non, non. Non, ce n'est pas le cas. Il me faut juste trouver 11 780 votes, un peu plus que l'écart actuel. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On a gagné les élections et ce n'est pas juste de se les faire confisquer. Vous avez une élection importante qui arrive. La population de Géorgie sait que c'est une fraude. Et à cause de vous, ils ne vont pas aller voter. Parce qu'ils détestent ce que vous avez fait au président.
Voilà, cette conversation téléphonique entre le président des États-Unis et donc le républicain chargé des élections en Géorgie.
8h08, il devait être un petit peu assommé par cette conversation lui-même. Hein. Noël est passé, c'est l'heure de se débarrasser de son sapin.
Dans la Manche, le maire de Gouville-sur-Mer lance un appel pour récupérer tous ces arbres qui pourraient faire œuvre utile en servant de barrière pour protéger les dunes de l'érosion. Frédéric Veil.
Oui, ce sont bel et bien 2500 sapins de Noël hein, dont la commune a besoin, car il y a près d'un kilomètre de littoral à protéger. Cela va des célèbres cabines de plage jusqu'au camping, une zone particulièrement fragilisée lors des tempêtes et des grandes marées. Alors ces sapins, eh bien, une fois collectés, seront plantés dans la dune pour capter le sable. François Legras, le maire de Gouville-sur-Mer.
Nous avons l'intention de faire des fascines, des protections douces avec des branchages, et puis mettre à l'arrière, entre le cordon dunaire et ce genre de système, des sapins pour piéger le sable. C'est tout simple.
C'est simple et ça fonctionne, puisque cela a déjà été fait dans les Landes. Voilà pourquoi l'élu invite tout le monde à venir déposer son sapin, sans boule ni guirlande, bien sûr.
On a lancé un appel un peu partout pour les sapins. Il nous en faudrait 2500. Donc ça arrive, c'est très bien. On a mis en place des points de collecte, puis toutes les communes environnantes travaillent pour nous. C'est super.
Mais il en manque encore. Hier, on en comptabilisait seulement une centaine.
Voilà, donc l'appel du maire de Gouville-sur-Mer pour faire utiliser ses sapins de manière intelligente.
Certes, oui. On termine avec l'histoire du jour.
Une histoire belge. L'interview du maire d'Anvers qui a tourné à la farce chez nos confrères de Radio Tzvé. L'émission est filmée. Le bourgmestre apparaît en visio de chez lui. Il porte une belle chemise à carreaux, mais ne fait pas attention au miroir juste derrière lui, qui révèle qu'en dehors de cette chemise, il ne porte qu'un caleçon.
Non.
Fou rire de l'animatrice et embarras de l'élu, gêné d'avoir montré l'envers du décor.
J'ai bien compris, c'était le journal de Jérôme Florin. À 8h35, ne manquez pas notre rendez-vous. RTL, vous êtes comme ça.
Là, il y aura 32 maisons qui vont partir, et dans des maisons qui ont une 300 ans, l'autre 400 ans. Je pense qu'à la première démolition, il y aura un pincement, mais là aussi, je pense qu'une partie va dire « bon, ben ça y est, ça commence, on va effacer un peu », parce que même si beaucoup de choses se sont faites, mais c'est toujours là, deux ans après, et donc on n'a pas l'impression de passer à autre chose.
Reportage très émouvant, vous l'entendrez de Patrick Tégéraud.